table chaude, là où on est vraiment en train de négocier les règles de la mondialisation. Là, les Américains sont d'accord pour le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très positif. Et il faut s'en réjouir. Et surtout, c'est un des rares endroits où les Américains sont encore des partisans du multilatéralisme.
Alors,
laissons-leur la chance.
Marie Dancer, ça nous rappelle aussi une affaire, c'est avec l'Allemagne. Quand Donald Trump menaçait de taxer les voitures allemandes, l'Allemagne a répliqué « oui, nous, on va taxer les motos, les sodas ». Et puis finalement, ils ont un peu fait marche arrière et aujourd'hui, on ne sait plus trop où s'en est. Donc est-ce que finalement, ce genre d'effet de manche peut avoir un...
Alors, il y a eu des vraies sanctions prononcées par la Commission européenne à l'égard des États-Unis. Ce sont des représailles commerciales, plus exactement, et qui ont notamment concerné les Harley-Davidson. Et on est un peu dans le même schéma là avec le vin, c'est-à-dire qu'on choisit des secteurs pour leur importance économique, certes, mais aussi pour leur poids symbolique. Donc nous, on a le vin, on a eu le Roquefort à une époque, on a eu les fameuses French fries quand
la guerre en Irak.
Voilà, l'opposition sur le sujet de la guerre en Irak. Là, on est aussi dans l'ordre du symbole, avec des secteurs qui ont aussi une importance économique malgré tout.
Alors justement, vous avez pris des exemples dans l'histoire. Et justement, il arrive que l'histoire se répète. Et en 2002, le président américain George W. Bush, lui, souhaite lui aussi taxer davantage les produits européens. Mais le protectionnisme de W. ne connaîtra pas de happy end. On regarde.
C'est sûrement la fin de la guerre de l'acier. George W. Bush a annoncé ce soir que les surtaxes concernant l'importation de produits sidérurgiques étaient supprimées. En mars 2002, les Américains avaient décidé de protéger leur acier en instituant un système de surtaxes douanières pouvant aller de 8 à 30%. Cette mesure protectionniste leur a donc permis de restructurer leur industrie. Dans les faits, les Américains ont choisi de calmer le jeu et d'échapper aux sanctions des Européens. Ils étaient bien décidés à mettre en place leurs propres mesures de rétorsion en imposant à leur tour des droits de douane sur d'autres produits américains.
Cette décision, je la prends parce que je crois profondément que les consommateurs et l'économie américaine se porteront mieux si le commerce est libre et juste.
Voilà pour notre archive, Claude.
Quentin Célin, il y a quelque chose de fascinant. George W. Bush, pour énormément de gens sur cette planète, c'était à l'époque le monstre de l'unilatéralisme américain qui faisait la guerre en Irak, contre nous, la France, et en dépit de la volonté des peuples, il apparaît immensément civilisé et coopératif en comparaison de ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui limite Donald Trump aujourd'hui? On voit ce qui limitait Bush.
Rien. Par rapport à Bush, c'est justement la différence. Et c'est pour ça que Trump a battu le frère Bush, par exemple, en 2016. C'est qu'il n'a aucun surmoi, aucune limite. On le voit encore en ce moment, aussi bien sur la scène intérieure, avec toutes les querelles actuelles sur la question raciale, mais aussi sur la scène extérieure. En ce moment, comme disait Maxime tout à l'heure, il mène la guerre à tous et à toutes sur Twitter en permanence, il n'a aucun surmoi, aucune limite. Et donc, justement, c'est ça qui peut rendre la chose inquiétante, c'est que généralement, quand il entame un combat, il préférerait mourir que de perdre la face et de reculer. Et donc, il n'y a pas cette rationalité qu'on pouvait avoir chez des acteurs comme George Bush. Et donc, à partir du moment où il a défié le président Macron et où il veut le soumettre, à quel moment lui peut reculer? C'est ça qui est un peu difficile à concevoir.
Donc Maxime, ce que vous décriviez comme ce passant à l'OCDE où des négociateurs américains négocient vraiment, est-ce que c'est une réalité tangible ou en réalité ça peut être balayé par le nationalisme, par le protectionnisme, par la vindicte, par l'ego, par l'hubris de Donald Trump?
Ah, ça peut l'être, effectivement, c'est un grand danger. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément une bonne idée que la France de cette taxe GAFA. Et je trouve que c'est une mauvaise nouvelle que Trump, tout d'un coup, ait ça dans son radar, puisque ça peut aller contre ces négociations-là. Mais effectivement, Trump fait beaucoup de choses, beaucoup d'effets de manche, et ça n'aboutit pas forcément. La meilleure, finalement, garantie, la meilleure sécurité de la France, c'est que ça soit au niveau européen. Et que cette politique commerciale européenne, si jamais il devait y avoir une guerre commerciale entre la France et l'Europe, ce qui n'existe pas encore, l'Europe est quand même très forte. C'est la première puissance commerciale au monde, le plus grand marché intégré au monde. Et donc, si vous voulez, l'Europe a le pouvoir de tenir tête aux États-Unis. La France toute seule, non, mais l'Europe a le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça que l'Europe est tellement importante pour la France.
Marie Dancer, d'un mot, est-ce que d'ici le G20 de Biarritz à la fin du mois d'août, est-ce qu'il peut se passer encore quelque chose? Est-ce que ça peut évoluer, la situation?
Je ne suis pas Madame Soleil, mais ce qui est clair, c'est que, en tout cas, la France va tout faire pour temporiser. Et Bruno Le Maire l'a bien dit, ce sujet sera discuté au G7 de Biarritz. Donc, rendez-vous dans un mois.
Et oui, rendez-vous dans un mois où l'ambiance risque d'être sympathique, donc entre Emmanuel Macron, Donald Trump, enfin tout le monde, bref. Merci.